Avions essayé de comprendre ce qu'Aristote dit dans les catégories à propos du relatif. Essayez de préciser ce qu'est l'être du relatif. Le second lieu important, c'est dans la philosophie première, le livre Delta. Un livre très curieux. Réflexion sur la signification des termes principaux dont se sert la philosophie première. Alors, Aristote nous dit ceci, les relatifs, selon le nombre, le rapport à l'un ou au nombre, qu'ils traduisent peut-être déterminé le double, indéterminé le multiple, ou totalement indéterminé l'excès par rapport au défaut. Relatif selon le nombre, Aristote rattache l'égal, le semblable et le même, car ces relatifs sont également dits selon l'un, sont dits les mêmes, tous ceux dont l'ousia est une, semblable, ceux dont la qualité sont dites les mêmes, tous ceux dont l'ousia est une. Semblables, ceux dont la qualité est une. Égaux, ceux dont la quantité est une. Ça, c'est ce qu'Aristote reprendra constamment. L'un, dans l'ousia, c'est l'identité. L'un, dans la qualité, c'est la similitude. L'un, dans la quantité, c'est l'égalité. C'est intéressant, puisque l'un est propriété de l'être. Alors, vous voyez, de cette manière, la façon différente dont on regarde l'un dans l'être, dans la qualité, dans la quantité. Or, l'un est principe et mesure du nombre. De telle sorte que tous ceux-ci sont dits relatifs. Selon le nombre, mais non de la même manière. Certes, ces relatifs ont des fondements très différents, mais ils ont en commun d'avoir un corrélatif numérique. Or, c'est le corrélatif qui permet de spécifier d'une manière ultime le relatif. Donc, on est là en face d'un relatif particulier. Par rapport au nombre, par rapport à l'un. Donc ça, première espèce. C'est très curieux le livre Delta. Le livre Delta est difficile. Il met du temps avant qu'on le comprenne. Deuxièmement, les relatifs selon la puissance et l'acte qui ont trait aux puissances passive. C'est très intéressant pour l'intellect passif et l'intellect agent. Alors là, ça vous éveille. Les relatifs sont la puissance et l'acte qui ont trait aux puissances actives ou passives et aux actes de ces puissances. Par exemple, la relation de ce qui peut échauffer et de ce qui peut être échauffé. Certains de ces relatifs implique en outre la notion de temps. Par exemple, la relation de ce qui a agi à ce qui subit l'action. C'est ainsi que le père est dit père de son fils. Enfin, certains relatifs existent selon la privation de puissance, comme l'impossible ou l'invisible. Là encore, les relatifs sont très divers, mais réunis par la nature de leur corrélatif. intéressant, c'est qu'Aristote nous montre que le relatif, d'une certaine manière, englobe toutes les diverses définitions, les diverses divisions. L'un, l'acte et la puissance. Enfin, troisièmement, les relatifs du troisième type. Ceux qui se divisent, ceux qui se disent du mesurable à sa mesure, du connaissable à la science, du sensible à la sensation, diffèrent des autres en ce sens qu'ils sont dits relatifs du fait qu'un autre est orienté vers eux. Et il faut se demander, est-ce que l'ami fait partie de ces relatifs? L'ami est relatif à son ami. Le connaissable est relatif du fait qu'il y a une connaissance possible de ce connaissable, alors que la connaissance est essentiellement relative à l'objet sur lequel elle porte. Dire qu'elle est relative à l'objet de connaissance, ce serait répéter deux fois la même chose. Par contre, les relatifs des deux premiers types, par exemple la connaissance, précisément, sont relatifs en ce sens que ce qu'ils sont ne peut se définir que par rapport à un autre chose. Les relatifs du troisième type ne sont donc pas réciproques, ni dans le même genre. C'est pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire entre leurs termes corrélatifs. C'est très calé, ça. Je ne comprenais pas grand-chose. C'est un regard critique d'Aristote sur la relative. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que voir que ça recouvre tout le domaine de l'un et du multiple. Tout le domaine de l'acte et de la puissance. Et en troisième lieu, un type très particulier du relatif, qui montre le mesuré et la mesure. Constatation, Aristote ne fait pas plus. C'est intéressant parce qu'il a saisi combien le relatif s'étendait pratiquement à toute la philosophie. On verra les conséquences après. Hein. Je constate qu'Aristote fait ce petit résumé sur le relatif. Les trois espèces. Tous ces relatifs sont relatifs par eux-mêmes, dit Aristote. Kat et Oté. Oto. Sont encore relatives par elles-mêmes les réalités dont le genre est relatif à cette même manière, par exemple, la médecine, parce que son genre, la science, est relative par soi. Aristote souligne encore l'aspect abstrait du prosti, le verre, quelque chose, passant ainsi de ce qui est relatif à la relation. Sont encore relatifs selon eux-mêmes ceux qui rendent relatifs ceux qui les possèdent. Ceux qui rendent relatifs, vous voyez, toujours blanc-blancheur. Hein. N'oubliez pas, il faut vous habituer à ces petites distinctions très subtiles du co et du quad. Le concret et l'abstrait. Le quo, ce par quoi. Le quoi du quoi? Alors, le relatif. La relation. La relation, c'est ce par quoi le relatif est relatif. C'est l'abstrait du relatif. Vous n'avez jamais touché une relation. Seule l'intelligence saisit la relation. Le relatif, c'est concret. Je suis relatif à toi, parce que je t'aime. Vous pouvez dire ça. Et plus je t'aime, plus je suis relatif à toi. Je te connais. Ah, c'est toi qui es relatif à moi. C'est pour ça que facilement on dirait, je te connais, donc je te possède. Tu es relatif à moi. Oui, comme c'est curieux. L'aspect relatif est différent du côté de l'amour et du côté de la connaissance. Expérience d'Aristote qui montre que c'est pas commun de savoir ce que c'est que le relatif. Quand vous dites à quelqu'un je t'aime, je suis relatif à toi. Quand vous dites à quelqu'un je te connais, c'est l'autre qui est relatif. C'est pour ça que c'est pas toujours agréable de dire à quelqu'un je te connais, tu sais mon vieux. Je te possède. Ça reconnaît une petite histoire, vous allez tout de suite comprendre. C'était à Fréjus, en Suisse, dans le Jura. Entrant dans un petit train, en clergyman, voit tout de suite dans le fond du train deux garçons, 20, 22 ans, 25 ans, qui touchent du bois. Un curé, touche du bois. Alors j'ai dit hautement, c'était visible, j'ai dit hautement. Ça n'a aucune importance, je l'ai vu avant qu'il touche le bois. J'ai dit ça tout haut. Il a plié, il m'a dit. Alors après, j'étais auprès de lui, j'ai dit, mon vieux, écoute, à ton âge, être comme ça. Vous voyez, quand on connaît quelqu'un, on le possède. Et après, j'ai dit, je t'aime. Alors, c'est le jeu des relatifs, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'être relatif? Et Aristote est le premier. Hein. C'est pas comme autre, c'est le premier. Nous, on répète Aristote, on répète Saint Thomas. Puis petit à petit, on comprend. On est libre d'eux. Le début aussi. Parce que chez Platon, la relation est l'être. Platon n'a pas distingué parfaitement le relatif et la substance. Et le néoplatonisme ne l'a pas distingué parfaitement. Et dans la science, tout est relatif. Mais une loi, c'est antécédent et conséquent, et c'est relatif. Un principe, c'est absolu. C'est très très important la question du relatif. Parce que ça nous fait entrer dans une distinction difficile à saisir. Mon domaine habituel, le domaine de la culture, du milieu, c'est la relation. Les gens vivent de relation. Dans un salon, on reste dans la relation. Les cartes de visite, on met toutes les relations qu'on a. Fonctionnaire, c'est être relatif. Vous vous définissez par vos relations. Grand fonctionnaire ou petit fonctionnaire, c'est des relations. Les gens vivent uniquement au niveau de la relation. Pendant la guerre, petite expérience, c'était à Toulouse. Après le tout le monde refoulé. Alors Toulouse, la grande place du Capitole, merveilleuse, étonnante. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était étonnant. Affiché sur tout le mur, des petites adresses. Un tel à tel endroit, un tel à tel endroit, un tel à tel endroit, un tel à tel endroit. Je sais pas, il y avait combien de. Et tout le monde regardait ça pour retrouver une relation. Et là, on voyait très bien la différence. Du petit paysan qui avait été rejeté de son endroit, combien a-t-il de relations? Un petit paysan du nord de la France, à Toulouse. Complètement dépaysé. Plus aucune relation. On est dépaysé. On n'a plus de relations. Alors, au contraire, celui qui avait plus. Il est là. Ah, il est là. Je veux de relation. On est la source de notre richesse. La pauvreté supprimait toutes les relations. N'écrivez plus à vos familles pendant le carême. Hein ? Plus de relations. En acte, puisque c'est corrélatif, vous avez vu. Si le corrélatif n'est pas là, il n'y a plus de relations. Il dort. Je ne vais pas lui écrire pendant le carême, mais il va dormir, il va m'oublier. La relation sera supprimée. C'est un des moyens d'entrer en métaphysique, la relation. Parce qu'il faut dépasser le mur du relatif, le mur du son, pour atteindre l'absolu. Un premier absolu, la substance. Un second absolu, Dieu. Un premier absolu, l'acte. Un second absolu. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pas commode, hein. C'est très difficile et c'est très subtil à saisir. Je relis. Tous ces relatifs sont relatifs par eux-mêmes. Kateota. Percée. Sont encore relatives par elles-mêmes les réalités dont le genre est relatif de cette même manière. Par exemple, la médecine. Aristote souligne encore l'aspect abstrait du prosti, passant ainsi du relatif à la relation. Sont encore relatifs selon eux-mêmes. Ceux qui rendent relatifs ceux qui les possèdent. L'égalité, l'égal, la similitude, le semblable. Qu'est-ce que c'est que la similitude? La raison de similitude, la raison d'égalité. La raison d'égalité rend égal. Qu'est-ce que c'est que d'être égal? Vous pesez 110 kilos et vous êtes seul de votre genre. Par hasard, vous rencontrez l'âme sœur qui pèse 110 kilos. Là. Ah, on est égaux. Enfin. Et on sort de sa solitude pour retrouver l'égalité. Je prends exprès l'exemple de 110 kilos, mais prenez d'autres choses. C'est très curieux. C'est très très curieux le point de vue relatif. C'est le seul lieu où Aristote mentionne explicitement la relation considérée d'une manière abstraite. On passe du prosti au pros, la relation. C'est intéressant, parce qu'on voit très bien combien Aristote dans son génie reste au niveau du relatif. Parce que c'est la seule expérience que j'ai. Être relatif. La relation. Alors qu'on va voir au contraire avec Thomas d'Aquin, avec les théologiens, c'est tout le temps la relation. Si l'on compare la recherche des catégories à celle de la métaphysique, livre Delta, on constate que dans les catégories, les relatifs sont pris d'une manière générique. Plus ou moins propre, et d'une manière accidentelle, et que la recherche aboutit à l'aspect quantitatif du relatif, en son sens le plus précis. Mais on part de, j'allais presque dire, l'aspect grammatical du relatif, à chercher la quantité. On passe du legein au tonein, au toena, je veux dire, du legein. Ce qui est dit à l'être. La recherche métaphysique procède d'une manière différente. Elle considère d'abord les diverses modalités spécifiques des relatifs. Puis, les relatifs qui ne sont relatifs qu'en fonction de leur genre. Puis, l'aspect abstrait du relatif. Pour enfin écarter est relatif par accident. C'est très curieux. Et c'est très intéressant comme démarche. Mais c'est là où on voit qu'Aristote n'a pas du tout une méthode univoque. La méthode des catégories, la méthode métaphysique, critique du livre Delta. Aristote a toujours un souci de saisir la raison, la ratio, le logos, ce qu'est la réalité. Donc, il part de la diversité des relatifs. Les trois diversités. Il y en a trois. Les diversités des relatifs. Les niveaux différents des relatifs. Pour aboutir à ce qu'est la relation. Du divers, on passe, si un divers, il y a quelque chose de commun dans cette diversité. Puis ensuite, il cherche l'abstrait, la relation. Et enfin, il sépare les relatifs percés, c'est-à-dire les relatifs essentiels, des relatifs accidentels. C'est très astucieux. C'est pas commun, hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc, faut pas trop s'arrêter quand c'est difficile. Hein. Ces deux classifications ne se recouvrent pas. Mais alors, c'est là où on voit combien, si vous regardez Aristote dans un sens purement philologique ou dans un sens purement littéraire, vous n'y comprenez plus rien du tout. Vous dites, il y a deux Aristotes. Alors on cherche une différence de date. Un premier, un second, il a évolué. Mais pas du tout. Aristote est capable de regarder la même réalité sous des aspects différents. Parce qu'il est intelligent. Tandis que ceux qui commentent sont peut-être moins. Ces deux classifications ne se retrouvent pas. Mais leurs points de contact permettent de conclure que l'une est fondée sur l'autre. Les trois modalités de relatif par eux-mêmes qu'énumère le livre Delta. Deux modalités de relatif réciproque et un de non réciproque correspondent exactement à la définition de relatif donnée au terme du chapitre 7 des catégories. Quand Aristote passe du legein au doeinai, donc, de ce qui est dit à l'être. Et dans les métaphysiques, il regarde l'être du relatif. Les réalités relatives en fonction de leur genre ne sont contenues que sous le terme relatif générique. Quant au relatif considéré d'une manière abstraite, il manifeste le caractère original de la forme du relatif. Le relatif a une forme d'une modalité d'être. C'est un certain être. Alors on garde l'abstrait. L'abstrait thématise, hein, comme on dirait dans un langage moderne. Thématiser, c'est montrer le relatif coupé de son aspect existentiel. Quand, comprenez bien, quand Husserl, dans la méthode philologique moderne, met entre parenthèses l'être, la mise entre parenthèses, Husserl dit, la philologie mais entre parenthèses, l'être. Alors on va essayer de saisir la signification à l'état pur. C'est toute la phénoménologie, ça. C'est la pensée moderne, c'est pour ça que je vous le dis. Il faut toujours avoir un œil sur l'ancien, un œil sur le moderne. Pour comprendre que l'ancien fait comprendre le moderne. Vous allez tout de suite comprendre. Quand je passe de relatif à relation, qu'est-ce que je fais ? Le relatif est toujours lié à ce qui est. Ce qui existe. Qu'est-ce qui existe ? C'est le relatif. La relation, elle n'existe pas. Vous n'avez jamais vu de relation ? Ce serait très troublant. À l'état pur. Qu'est-ce que c'est que la relation ? C'est la mise entre parenthèses. saisir le relatif à l'état pur, c'est-à-dire la forme. La forme pure du relatif et la relation. Vous voyez, je rejoins la phénoménologie du CERN. La mise entre parenthèses, nous disions dans un langage ancien, l'abstraction formelle. Et Husserl dit la mise entre parenthèses. Mais c'est intéressant parce que ça permet de retrouver un effort commun. Toute la différence, c'est que pour Husserl, la métaphysique commence avec la mise entre parenthèses. Et que pour Aristote, la mise entre parenthèses n'est qu'un moment. La métaphysique ne peut pas être au niveau de la forme pure. Ça, c'est Platon. Et vous rejoignez Husserl. Vous voyez la parenté entre Platon et Husserl. Par deux voies tout à fait différentes. On a vous dit la même chose. Alors ça, c'est particulièrement éloquent pour le relatif. Parce que comme nous allons voir, le relatif est un être débile. Oui, tout à fait. C'est un être débile, là, le relatif. C'est un être qui ne tient pas par lui-même. Il ne tient pas sur ses pieds. Il dégringole. Tout de suite. Alors c'est intéressant de voir comment cet être débile, on lui donne une splendeur. Alors retenez bien ça, c'est très intéressant pour comprendre le point de vue de Husserl. La mise entre parenthèses en phénoménologie, pour ne saisir que la signification. Et dans le langage aristotélicien, c'est le passage du quod au quo. C'est le passage du relatif à la relation. Donc saisir la forme pure. Ce que saint Thomas appellera l'abstraction formelle. C'est ça exprès pour qu'on ne s'arrête pas aux mots. Et que derrière les mots, on saisisse, au fond, un effort constant de l'intelligence. Quand on saisit la différence entre le jugement et l'appréhension, le jugement, il est toujours à ce niveau-là. Au niveau du quad, l'appréhension. Donc, les relatifs, les réalités relatives, en fonction de leur genre, ne sont contenues que sous le terme relatif générique. Quant aux relatifs considérés d'une manière abstraite, ils manifestent le caractère original de la forme, de la signification du relatif, mais ne constituent pas une nouvelle espèce de relatif, ni ne fondent une nouvelle attribution. Ils ne figurent donc pas dans l'analyse des catégories. On voit ainsi l'unité profonde de cette doctrine aristotélicienne du relatif considéré sous ces deux aspects, terme relatif et mode d'être relatif. Oui. Pour mieux saisir l'importance du relatif dans la philosophie d'Aristote, il faudrait examiner l'usage qu'il en fait dans ses divers traités, notamment la physique, le traité de l'âme, l'éthique Nicomaque et la métaphysique. En particulier, à propos de l'être, de l'acte et de la puissance, de l'un et du multiple, et à propos du caractère analogique de l'être. Bon, c'est pas le but ici, mais c'est intéressant de voir ça, de comprendre que, de fait, nous échappe tout le temps, en raison même de son caractère très subtil. Alors, après, je vais pas le voir avec vous, Plotin, c'est le néoplatonisme. Alors, dans le néoplatonisme, on s'aperçoit que relation, relatif et substance sont toujours intimement mêlés. Je vous lis ce texte, simplement. C'est un texte de Plotin. Les Énéades de Plotin. Le double, c'est de Plotin, le double, rapporté à la moitié, ne confère aucune hypostase à une longueur de double coudée. Mais deux et un étant donné, outre qu'ils sont deux et un, ils peuvent, dans leur rapport entre eux, être appelés et être effectivement l'un double, l'autre moitié. À eux deux, ils ont donné naissance à un autre être dérivé d'eux, le double et la moitié, qui prennent naissance l'un par rapport à l'autre et ne sont que l'un par l'autre. Le double parce qu'il surpasse la moitié et la moitié parce qu'elle est surpassée. Ils viennent ensemble à l'être. Et comme c'est curieux. Et on va voir l'engendrement par le relatif. Alors, c'est très intéressant, parce que du relatif naît la relation. Nous nous disons que c'est le même être, mais abstrait. Et le néoplatonisme dit que c'est deux êtres. Je ne demande pas plus que ça, c'est suffisant. Parce que ça montre que l'abstraction, pour le néoplatonisme, nous met en présence d'un nouvel être. Alors que pour l'aristotélisme, l'abstraction ne met pas en présence d'un nouvel être, mais met simplement en présence d'une abstraction. L'égalité et l'égal, est-ce que c'est deux êtres différents? L'égalité et l'égal. Ce qui est double est la dualité. Est-ce que c'est deux êtres? Non. C'est tout simplement le quoi et le quad. Ce par quoi, ce qui est double est double. Il est double par la dualité. Pour le néoplatonisme, c'est là où je saisis le mieux l'apparition d'un nouvel être. Donc thématiser, c'est engendrer. Je peux vous prendre encore un autre aspect. Si l'être est relatif et leur dépendance réciproque, qu'on nous dise quelle hypostase commune à tous possède ce caractère, qu'elle soit un corps, ce n'est pas possible. Si elle est, reste donc qu'elle est incorporelle. Elle est alors, ou bien dans les corps, ou bien hors d'eux. Si l'être du rapport est partout le même, le mot rapport est synonyme. Sinon, si son être diffère selon les cas, le mot est homonyme. Et il ne suffit pas de prononcer le mot rapport pour désigner une même essence. Là aussi, c'est très curieux. Donc on refuse de considérer la relation comme un être particulier. Et on le considère qu'en fonction du relatif. Alors ça fait juste l'inverse que ce qu'on avait dit précédemment. On passe du concret à l'abstrait, on a deux êtres différents. Et si on regarde l'abstrait, on dit mais l'abstrait n'existe qu'en fonction du relatif. Donc on refuse l'abstraction formelle. Je n'insiste pas plus. Je voudrais avec vous maintenant, tout de suite, regardez, puisque ça nous intéresse davantage, la relation chez saint Thomas. Ça vaut la peine. C'est difficile. Je peux regarder tous les œuvres de saint Thomas sous le point de vue de la relation. J'ai fait ce petit travail. C'était très intéressant. Depuis les premières œuvres de saint Thomas jusqu'aux dernières. Et ne regarder que le relatif et que la relation. Et se demander si dans la pensée de saint Thomas, il y a évolution par rapport au relatif. Vous allez voir, je ne vais pas vous faire tout parce que ce serait beaucoup trop long. Alors simplement, je note, en raison de la révélation du mystère de la très sainte Trinité et de la création, la réflexion théologique va avoir recours d'une façon très spéciale à la relation et au relatif. Il va même approfondir le sens de la relation, la signification de la relation. Alors ça, c'est très intéressant à voir. Que la révélation du mystère de la très sainte Trinité n'est intelligible pour nous que par la relation. La révélation de la très sainte Trinité me dit que Dieu est un et Dieu est trois. Comment loger dans l'un trois? Tout est un. Il y a trois personnes et il y a un, une res, une réalité. Dieu est absolument saint. La simplicité de Dieu n'est pas atteinte par les trois personnes. C'est le reproche que vous feront toujours les musulmans. Vous dites trois personnes en Dieu, donc vous n'êtes plus monothéiste. Et vous devez répondre, nous sommes plus monothéistes que vous. C'est une bonne apologétique. Non. La simplicité de Dieu n'est touchée en rien par le mystère des trois personnes. Et le mystère est là. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Hein. Mais pour expliciter ça, je ne me sers pas de la substance. Je ne peux pas dire qu'en Dieu, il y a trois substances. Si vous disiez qu'en Dieu, il y a trois substances, vous n'aurez plus monothéisme. Alors vous vous servez de quoi? De l'être le plus débile pour exprimer l'être le plus fort. C'est extraordinaire, ça. C'est génial, hein, d'avoir trouvé ça. C'est extraordinaire, ça. Et le théologien saint Thomas, c'est le théologien de l'ousia, de la substance, de la subsistance. Et c'est le théologien de la relation. Il fait les deux. C'est là l'aspect le plus génial de saint Thomas. Et en faisant ça, il montre à la fois l'affirmation de la très sainte Trinité. Trois personnes. Et maintient la simplicité la plus absolue. C'est la même chose pour la création. Dieu n'est modifié en rien par la créature. Pourquoi? Parce que la création, elle est totalement relative à Dieu. La créature comme créature n'est que relative. Donc ne modifie rien en Dieu. Je n'ajoute rien à l'être de Dieu. Tout mon être vient de Dieu. Et je n'ajoute rien à l'être de Dieu. Vous voyez, c'est génial. On va découvrir ce que c'est que la relation. Alors on verra par rapport à la très sainte Trinité, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. On peut comprendre que ce n'est pas contradictoire de dire que Dieu est absolument simple et qu'il est trois personnes. Face aux musulmans, face aux juifs, c'est très important de montrer qu'on est encore monothéiste. Vous voyez, quand le Saint-Père réunit à Assise tous ceux qui sont pour l'unique Créateur et qui adorent l'unique Créateur, il rappelle toutes les religions monothéistes. Et c'est pas parce qu'il y a la révélation de la très sainte Trinité qu'on n'est pas monothéiste. C'est pas parce que on maintient une création libre qu'on n'est pas monothéiste. Mais alors là, il y a eu un coup de génie de la part de saint Thomas. De comprendre qu'est-ce que c'est que le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Ils sont un dans leur être. Il n'y a pas trois êtres en Dieu. Et il y a trois personnes. Ah, vous perdez tout votre latin. C'est évident. Il y a trois personnes et un seul être. Vous n'avez pas le droit de dire trois êtres. Vous n'avez pas le droit de dire trois restes, trois réalités.